Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants de petites et moyennes entreprises, co-animée par Alain Marty et Pauline Riglet, en partenariat avec GFIP et JPA International.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de PME Radio. Vous êtes plus de 28 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Un grand merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, on attend de lire vos réactions et vos commentaires sur nos réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer cette émission, Guillaume Dosinel, dirigeant associé de GFIP. Bonjour Guillaume.
Bonjour Pauline.
Ainsi que Damien Potvin, président de JPA Group. Bonjour Damien.
Bonjour Pauline.
Alors aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Anne-Laure Saint-Marc Girardin, associée fondatrice et présidente de Carmine Capital. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Pauline.
Alors Anne-Laure, vous êtes diplômée d'un master en finance et en évaluation des entreprises. Vous commencez votre carrière au sein de Didier & Company, j'espère que je prononce bien, cabinet de conseil en M&A franco-américain. Et c'est là que vous découvrez plus sérieusement le monde de l'entrepreneuriat avec ses succès et ses échecs. Et en 2013, vous décidez vous-même de vous lancer et vous créez Carmine Capital, une société qui accompagne les dirigeants de PME ETI dans leurs opérations de cession, acquisition, levée de fonds. Alors avant de parler de votre activité, un mot sur votre parcours. Ce qui ressort notamment, c'est la proximité que vous avez eue avec de nombreuses entreprises, toutes différentes d'ailleurs.
C'est l'intérêt du métier. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai découvert à travers le M&A, c'était qu'on rencontrait beaucoup de dirigeants, notamment parce que je fais du M&A pour les PME et les ETI. Mm-hmm. Donc, ça amène à rencontrer beaucoup de monde, beaucoup d'histoires, d'aventures entrepreneuriales. Et effectivement, on se rend compte très vite que ce sont des parcours qui sont en dents de scie. C'est des parcours qui sont juste passionnants. Voilà.
Mmh. Et cette diversité, j'imagine, aujourd'hui, elle vous permet d'être aux manettes de Carmine Capital. Ça vous a nourri un petit peu
Oui, j'ai beaucoup appris, parce qu'en 20 ans, effectivement, d'histoire entrepreneuriale, on apprend aussi à voir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mmh. Alors, il n'y a pas de règles parfaites, mais il y a quand même quelques sujets, effectivement, qui nous éclairent pour nos propres aventures entrepreneuriales.
Alors, on va sans doute y venir un peu plus tard avec nos experts. Mais Carmine Capital, en quelques chiffres, hein, c'est une trentaine de collaborateurs, 6 bureaux en région, plus de 300 opérations réalisées dans plus de 40 secteurs d'activité, le tout pour des valorisations d'entreprises accompagnées entre 10 et 200 millions d'euros. Est-ce que je me trompe ?
Non, pas du tout, c'est tout à fait ça.
Alors c'est parfait, on a les bons chiffres. Guillaume, est-ce que vous avez des questions pour notre invité du jour ?
Oui, Anne-Laure, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous voyez chez les dirigeants au moment de vendre leur entreprise ?
Alors, l'erreur la plus fréquente, c'est la non-anticipation de la cession. Un projet de cession, ça s'anticipe. Il y a beaucoup de possibilités, en fait, dans une cession. Ça peut être une transmission totale, partielle, avec l'implication de ses salariés ou pas. Et moi, je dis souvent qu'une opération en capital, alors quelle qu'elle soit, mais aussi, du coup, une cession, elle doit répondre à trois enjeux pour un dirigeant. Un enjeu personnel, un enjeu professionnel et un enjeu patrimonial. Parce qu'un dirigeant, c'est d'abord un être humain. Que cet être humain a des envies, enfin c'est sa vie personnelle qui va avoir une influence sur ses envies professionnelles. Je veux travailler plus, je veux travailler moins, différemment, sur des aspects stratégiques ou plus opérationnels, ça dépend vraiment des gens. Et puis évidemment, ça a aussi un impact sur son besoin patrimonial à un instant T. Et c'est important de bien construire une opération en capital lors d'une cession.
Alors, une petite question un peu provocatrice. Vous parlez souvent d'ADN d'entreprise. Comment protège-t-on une culture en la vendant ?
En s'assurant que l'acquéreur partage cet ADN. Et ça, c'est un point essentiel. Et en fait, il y a beaucoup de dirigeants qui ne savent pas qu'on peut vendre à quelqu'un qui lui ressemble ou qui va respecter cet ADN. Et moi, je pense que quand on vend, quand on transmet, les collaborateurs, ils restent, ils sont toujours là. Et je trouve que c'est important de s'assurer que la création de valeur reste à travers cette opération, au-delà d'opérations, notamment pour protéger l'emploi des collaborateurs que vous ne pouvez pas balader d'une vision à une autre. Et un dirigeant, c'est d'abord une vision, un chemin, qu'il faut respecter pour la suite.
L'IA arrive dans le M&A, fantasme ou vraie révolution ?
Alors, ça dépend des points de vue. Je pense que beaucoup de mes confrères, effectivement, utilisent l'IA sur beaucoup de sujets qui, selon moi, ne sont pas adaptés. Moi, je crois beaucoup en la capacité de l'être humain à être intelligent et à s'adapter et à comprendre aussi. Vous pouvez faire plein d'indicateurs, plein d'analyses. En fait, elles auront de l'intérêt que si elles sont cohérentes par rapport au business model de votre entreprise et à sa réalité opérationnelle. Donc l'IA, oui, je pense qu'elle est utile pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans notre métier, elle est certainement très utile dans des aspects commerciaux. Et nous, c'est à travers ça qu'on l'utilise. Mais pour des aspects d'analyse financière, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas encore au niveau.
Une dernière question, vous évoquez un réveil économique nécessaire des Français. Que faudrait-il changer pour mieux protéger notre tissu de PME ?
Je pense qu'il faut effectivement que les Français se rendent compte que le monde est le monde et qu'il faut, faut arrêter cette prudence. Il faut arrêter d'avoir peur. Je pense que c'est important d'être courageux, d'envisager avec enthousiasme ce que le monde peut offrir. Il faut sortir des frontières, il faut aussi se consolider, grandir et être solide quand même pour affronter effectivement les enjeux économiques d'aujourd'hui. C'est un peu ça pour moi le sujet, c'est qu'on reste, alors c'est aussi très lié à la situation politique française aujourd'hui, mais on reste cantonné à des petits sujets, honnêtement, qui ne sont plus les sujets d'aujourd'hui. On parle de l'IA. Enfin, l'IA, c'est une révolution, on n'est qu'au début, on n'a rien vu. Ça va transformer le monde. Et donc, il faut être solide. Et il faut aussi qu'on ait des vraies convictions et qu'on soit capable de les diffuser.
L'IA, on en parle de plus en plus, hein, sur PME Radio en tout cas. Damien Potvin, vous avez aussi des questions pour notre invité.
Oui, je ne suis pas une IA. Bonjour Anne-Laure. Petite question, vous avez quand même plus de 300 opérations sur 13 ans à peu près, enfin une dizaine d'années. Ça fait plus de 20 opérations par an. Mm-hmm. Bon, j'imagine que vous avez un peu un track record et une vision depuis un moment. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Parce que Guillaume et moi, on fait beaucoup de valorisation. On voit que globalement, les multiples se sont tassés. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est lié seulement au contexte économique ou on parle de plus en plus du papy boom, c'est-à-dire des gens qui ont des boîtes à revendre, donc un peu à l'image du marché immobilier, on a trop de biens à vendre, ou ce qui fait que voilà, il y a une perte de valeur.
Alors sur le papy boom, moi ça fait 20 ans que j'en entends parler, donc oui, il y a une réalité de cession des entreprises, mais c'est une réalité depuis 20 ans, ça va continuer. Accessoirement, aujourd'hui, ce qu'on voit surtout, c'est que moi, quand j'ai commencé ce métier, on disait qu'un dirigeant vendait quand il partait à la retraite. Aujourd'hui, un dirigeant, il vend quand il est à la tête de sa boîte depuis plus de 10 ans. Parce qu'en fait, c'est épuisant. On est dans un monde vraiment qui est épuisant pour les dirigeants. Je pense que, accessoirement, on ne s'en rend pas compte parce qu'on parle souvent d'entreprise et on parle de dirigeants. On oublie de dire qu'encore une fois, ce sont des êtres humains derrière qui ont une vie. Je pense qu'au bout de 10 ans, on est un peu fatigué et le monde actuel n'aide pas. Du coup, j'ai perdu le fil de votre question, pardon.
Ouais, comme on voit que les multiples perdent un petit peu en volume, enfin voilà, on n'est plus à des multiples de 12 ou 13 sur des EBITDA, mais plutôt 7 et 8 en ce moment, qu'est-ce qui se passe ?
Alors oui, les multiples ont baissé, ça c'est sûr, et effectivement, post-Covid, on ne l'avait pas trop vu. Et là, depuis un an et demi, on le voit. Après, on a toujours des multiples qui sont très élevés sur certains secteurs. Et ensuite, c'est juste une réalité économique. Tout est plus difficile. Moi, je suis d'un caractère très optimiste. Donc, c'est la réalité des choses. Les gens n'ont pas vendu aussi. Les dirigeants, comme l'économie n'était pas très favorable, ont voulu un peu attendre en disant « ça ira mieux demain ». Demain, ça ne va pas beaucoup mieux. Du coup, les gens vendent, quoi. Et donc, effectivement, ils vendent avec des multiples un peu moins élevés. Mais c'est surtout... Je ne suis pas sûre que ce soit tant les multiples. Je pense que c'est plutôt les indicateurs financiers. L'EBITDA ou le BE sont moins bons. Le même multiple sur un indicateur plus bas, ça fait des valos plus basses.
Ouais, exact. Ou alors, ça fait un multiple plus haut, en théorie. Alors, petite question. J'ai vu que vous avez plusieurs implantations au Canada et en Suisse. Vous voyez des choses qui sont différentes là-bas ? Nous, on a quand même un truc génial, c'est le pack du trail. Et là-bas, ils ont quoi ?
Alors, ils n'ont pas le pack du trail, mais ils n'en ont pas besoin.
Merci.
Non, c'est des marchés qui sont très différents sur, effectivement... la réalité de l'environnement private equity, il y a beaucoup moins de fonds d'investissement dans ces environnements-là. En tout cas sur la partie Québec, puisque pour l'instant on est à Montréal, et sur la Suisse romande. Après, c'est, pour le coup, le papy boom existe aussi là-bas. Donc il y a une réalité, un besoin d'accompagnement dans les transmissions. Et en fait, on est aussi allé sur ces territoires-là parce que nos clients nous ont demandé de les accompagner dans leurs opérations de croissance externe sur ces territoires. Et donc, si on veut bien accompagner, il faut aussi comprendre un territoire, comprendre l'écosystème, les spécificités fiscales, sociales, aussi pour s'assurer que notre client fera une bonne intégration ensuite.
Oui, donc finalement, en plus, comme vous avez pas mal de clients un peu internationaux, vous risquez de vous déplacer de plus en plus, que je comprends.
Encore une fois, le monde est vaste et je pense, là aujourd'hui, nous, on a envie de dépasser justement les frontières même... qui sont assez classiques de l'Amérique du Nord ou la Suisse qui est frontalier avec nous. Donc l'idée, c'est d'aller aussi en Inde, en Chine, qui sont des zones où il y a, au Vietnam, ce sont des zones où il y a une très grande dynamique. Et je pense que c'est important que nos clients puissent y accéder.
Ouais, mais c'est pas simple de développer des activités comme ça, parce que beaucoup d'intitulés personae, alors que vous ne vivez pas forcément dans ces pays, vous en pensez quoi? Comment vous imaginez l'expansion de votre activité en termes actionnariat avec ces pays étrangers?
Alors moi, je pense que oui, c'est un métier d'intitulé personae quand on le crée comme ça. Moi, j'ai voulu que Carmine, ce soit une marque et que ce ne soit pas moi. Et aujourd'hui, j'ai une équipe d'une trentaine de collaborateurs, donc Carmine, heureusement, ce n'est pas moi. Et c'est toute l'équipe qui fait la force de la société. Et cette équipe, elle est capable, effectivement, de continuer le développement et de m'accompagner dans le développement.
Une petite dernière question un peu plus personnelle pour terminer, on a le temps. Vous aimez la natation, le tennis, la rando en montagne et vous avez longtemps joué du piano. Est-ce que vous avez le temps de jouer encore un peu au piano?
Eh bien, malheureusement, non. J'aimerais bien. Mon piano est là, dans mon salon, mais c'est plutôt ma petite dernière qui y joue que moi.
D'accord. Donc, ce n'est pas que le rôle de la dirigeante, c'est aussi la maman. Il y a plein de choses, il y a plein de temps à accorder à tout le monde. Merci en tout cas, Anne-Laure Saint-Marc-Girardin, de nous avoir parlé de votre activité. C'était très intéressant. Merci également à vous, Guillaume et Damien. C'est déjà, malheureusement, la fin de ce numéro de PME Radio. Mais retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur notre compte LinkedIn. Et nous, on se retrouve jeudi prochain à 14h pour découvrir un nouvel invité. Merci encore.
L'invité de la semaine de PME Radio, une production B2B Radio en partenariat avec GFIP et JPA International.